dans un endroit qui n'est peut-être pas toujours très facile d'accès pour les questions de parcage, et par la pluie et par le froid, pour ce sujet qui manifestement suscite la réflexion, l'embarras de bien les praticiens et bien les personnes concernées par ce problème. Vous êtes ici à l'initiative du comité Au-delà du 14 juin, qui est une association qui tente de promouvoir dans les faits et dans les lois le principe de l'égalité qui est consacré à l'article 4 alinéa 2 de la Constitution. Nous estimons que le droit de la famille et particulièrement les relations économiques entre époux sont au cœur de la problématique de l'égalité, car c'est en effet bien souvent ce que les individus vivent ou assument dans le cercle familial qui détermine leur aptitude à l'égalité dans des domaines sociaux, professionnels, très variés. Ne pas tenir compte des inégalités dans les responsabilités et les charges familiales ou privées peut aboutir à une véritable perversion du principe de l'égalité. C'est-à-dire que notre réflexion sur ce sujet n'est pas toujours facile et que c'est un sujet parsemé d'écueils. Il faut par conséquent exclure toutes les solutions simplistes dans ce domaine. Je me permets à cet égard de vous informer que le Bureau fédéral pour l'égalité entre femmes et hommes et la Commission fédérale pour les questions féminines va organiser à Berne le 6 décembre un colloque qui traite notamment des effets du nouveau droit matrimonial sur la jurisprudence actuelle en matière de pension après divorce. C'est dire qu'un droit qui avait été considéré comme une conquête des femmes peut, à certains égards, entraîner des effets négatifs et qui n'avaient pas été prévus dans d'autres domaines du droit. Ce colloque traite également de la médiation dans le cadre des divorces, de l'autorité parentale conjointe et de certains aspects des droits des femmes dans le deuxième pilier, la sécurité sociale. J'ai ici quelques prospectus informatifs qui sont à votre disposition, il n'y en a malheureusement pas beaucoup, si cela vous intéresse. Le droit du divorce pose, indépendamment de la problématique de l'égalité, de nombreuses difficultés aux praticiens et par conséquent à leurs clients. Nous avons en effet un droit qui est tout à fait dépassé par la réalité sociale, la réalité vécue par les gens, et qui néanmoins est contraignant, avec lequel nous devons travailler parce qu'il s'impose à nous, comme il s'impose au tribunal. Je ne sais si nous avons ici ce soir une représentante de l'association des familles monoparentales et recomposées. Si ça n'est pas le cas maintenant, j'espère que c'est vous. Eh bien, je vous remercie, madame. Et naturellement, vous pourrez prendre la parole dans le cadre de la discussion au nom de votre association. Si vous le souhaitez, vous êtes même la bienvenue pour le faire. Je me permets de vous présenter nos conférenciers de ce soir qui nous ont fait l'honneur et la gentillesse de venir, malgré certainement pour chacun d'entre eux un agenda très chargé. Monsieur le professeur Grossen de la faculté de droit de l'université de Neuchâtel, maître Ursula Norman-Zimmermann, avocate à Lausanne, monsieur le président Tapie qui remplace dans les débats Monsieur le Président Cornu, qui est malheureusement souffrant ce soir. Monsieur Cornu a néanmoins eu la possibilité de me remettre un texte écrit de son exposé qui vous sera lu par Maître Zegger, qui est membre de notre comité. Et Monsieur le Président Tapie sera à votre disposition pour répondre à vos questions dans le cadre des débats qui suivront. Et enfin, Madame Françoise Messon, enseignante à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, qui vous parlera de cette problématique de l'égalité d'une manière un peu moins technique peut-être, mais néanmoins très éclairante. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Vous savez que cette table ronde sera suivie d'une verrée que nous faisons un plaisir de vous offrir et qui, j'espère, permettra à la discussion de se poursuivre d'une manière informelle entre les personnes qui voudront bien rester. Alors, je passe la parole à Maître Zegger, qui va donc vous lire le texte qui avait été préparé par le président Cornu et qui traite de la pratique d'un magistrat de première instance. C'est dans son tribunal qu'on a inauguré, dans le canton de Vaud, les procédures de divorce sans témoin, et que cette innovation qui a été fortement contestée et notamment jusqu'au tribunal cantonal, a certainement joué un rôle dans la réforme de notre code de procédure civile qui connaît maintenant la procédure simplifiée. Donc vous apprécierez peut-être mieux l'orientation de cet exposé. Le président Cornu, en fait, est un adepte des méthodes pragmatiques. Il dit même que le magistrat doit adopter une méthode empirique aidée des principes légaux et jurisprudentiels. Donc l'empirisme l'emporterait sur la loi. Je ne sais pas si il faut aller jusque-là, si on peut aller jusque-là, si tout le monde est d'accord qu'on aille jusque-là, mais c'est en tout cas une question qui mérite réflexion. Et le deuxième point qui est frappant dans son exposé, c'est qu'il n'aborde la question des torts qu'au moment où il s'agit de critiquer la législation actuelle, mais que lui, dans sa position de magistrat, ne considère pas la question des torts comme étant une donnée déterminante du problème à solutionner. Donc là, je pense aussi qu'on pourra ultérieurement ouvrir la discussion sur ce sujet. Mais je passe maintenant la parole à Françoise Messon pour qu'elle nous fasse part de ses réflexions.
Mesdames, Messieurs, je pense que certains et certaines d'entre vous doivent se demander, ou du moins je suppose, quelle contribution la sociologie peut y apporter aux problèmes qui nous ont conduits ici ce soir. Bon, je vais essayer de tenter de présenter quelle pourrait être cette contribution, mais sans affirmer que mes quelques réflexions couvrent tout le champ de la sociologie sur ce plan-là, bien évidemment. Mais avant d'entrer en matière, j'aimerais faire juste une remarque. Ce n'est pas tous les jours que le ou la sociologue a la possibilité de confronter ses positions avec celles de juristes, celles de praticiens et praticiennes. Et je suis particulièrement contente de l'occasion qui m'est donnée ici. Si je devais donner un titre à cette courte intervention, j'hésiterais entre « Quand on aime, on ne compte pas »,« L'amour est aveugle » ou encore de Balzac « Plus on juge, moins on aime ». En effet, proverbes et maximes disent à leur façon combien l'amour conjugal joue le rôle d'un équivalent général de toutes les richesses. Du fait de sa gratuité, ou mieux peut-être du fait qu'il se présente sous la forme de la gratuité et du désintéressement, nous ne voyons pas, ou bien nous ne voulons pas voir, les intérêts sociaux en jeu dans la vie conjugale. Et le plus souvent, nous les dénions. De ce fait, on pourrait dire que pour le sociologue, l'amour représente un obstacle, et un obstacle de taille, à une analyse objective des effets du mariage sur les conjoints. Le divorce, par contre, parce qu'il présuppose la disparition ou bien la dissolution de ce ciment social qu'est l'amour conjugal, le divorce, lui, permet aux sociologues d'analyser a posteriori les effets du mariage sur la vie des conjoints. Je ferai ici juste un rappel, mais je n'y reviendrai pas, parce que je crois que ce fait est bien connu de tous et de tous. Le divorce, de manière différenciée, certes, mais en fait, quel que soit le statut social des époux, le divorce signifie une baisse du niveau de vie, au sens où il implique matériellement un dédoublement du ménage, deux appartements, deux télévisions, et dans certains milieux plus favorisés, deux chambres par enfant, etc. Bon, ceci dit, je reviens au mariage. Les recherches de sociologie montrent clairement, et là je crois pouvoir être assez affirmative, que le mariage, analysé donc sur la base de critères relatifs à la situation professionnelle uniquement des conjoints une fois le mariage dissous, le mariage représente un coût pour les femmes et un bénéfice pour les hommes. En d'autres termes, le mariage forme un support positif à la carrière masculine et un obstacle à la carrière des femmes. Les hommes mariés réussissent professionnellement mieux que les hommes célibataires. Et cet écart, ce clivage, est d'autant plus marqué ou d'autant plus fort que le niveau de formation ou le capital scolaire, comme on dit parfois en sociologie, des conjoints est faible. En d'autres termes, le mariage est d'autant plus favorable aux hommes que leur dos scolaire est faible, ce qui signifie que le mariage est plus important, ou en tout cas plus avantageux, pour les hommes des classes les moins favorisées, et donc plus coûteux, moins avantageux pour les épouses des classes moins favorisées que pour celles qui appartiennent aux classes plus favorisées. Bon, ce qu'il faut dire avant tout, c'est que c'est surtout le fait d'avoir et d'élever des enfants qui provoque ce que le sociologue appelle la dévaluation du diplôme féminin sur le plan professionnel. Cependant, en raison de notre débat de ce soir, et peut-être afin de chercher à mieux cerner la question, je vais autant que possible essayer de m'abstraire de parler du problème des enfants, en présupposant, et probablement à tort, que les pensions pour les enfants couvrent une partie des frais et des charges qu'ils occasionnent. Bon, certes, cependant, à l'instar de l'amour conjugal, il est évident que personne, et même pas un sociologue, peut mesurer le bonheur que procure un enfant, bon, le sentiment de réalisation personnelle, le sens qu'il peut donner à une vie, etc. En revanche, je crois, on se doit de rappeler quelque chose de plus élémentaire, de beaucoup plus brut, peut-être, de beaucoup moins subjectif, mais quelque chose qui est souvent occulté dans nos sociétés, à savoir que la production d'enfants est une activité indispensable à la société, que les enfants sont une richesse pour la société dans son ensemble. De nos jours, disons dans nos sociétés, on tend à faire des enfants une question intime, une question privée, voire une question personnelle, ce qui a pour effet vraiment pervers de négliger l'aspect social ou sociétal de cette nécessaire production d'enfants, et donc en quelque sorte de la responsabilité de la société dans son ensemble qui se doit de leur donner des chances égales d'accès à la formation, de connaissances, de développement de leurs dispositions, etc. Et le divorce est à ce moment-là, me semble-t-il à cet égard, un moment clé dans le sens où la société, représentée par la loi, par les juristes, par les représentants de la loi, intervient directement au sein de la sphère privée. J'y reviendrai très brièvement dans ma conclusion. Mais auparavant, j'essaierai d'expliquer très rapidement, je m'excuse d'un certain schématisme, les raisons principales, enfants mis à part, qui expliquent pourquoi ce sont les femmes en général, toutes classes confondues, qui payent le plus lourd tribut au mariage. Il ressort des études dont j'ai pris connaissance que les formes par lesquelles les femmes contribuent au maintien de l'amélioration de la valeur sociale de leur mari sont non seulement multiples, mais diffuses. Et j'en ai retenu trois. La première, une femme contribue à l'amélioration de la valeur sociale de son mari, ces termes sociologiques sont aussi effrayants que les termes juridiques, en le déchargeant des travaux domestiques, ceci est bien connu de tous. Ce que je veux dire, c'est que malgré le discours ambiant, du moins dans le milieu universitaire, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les milieux, les femmes continuent à assumer la plus grande partie des tâches domestiques. Une étude récente faite à Genève indique que les femmes en font trois quarts à peu près. Donc si la situation a quelque peu évolué, car elle a évolué, c'est au niveau des concubins principalement, où il y a effectivement un meilleur partage des tâches, et aussi au niveau des couples dans lesquels, au sein desquels les deux conjoints travaillent à temps complet, là également il y a une meilleure répartition des tâches. Mais l'arrivée d'un enfant, et même l'arrivée du premier enfant, j'ai écrit, rétablit la situation, si j'ose dire. La deuxième dimension que j'ai retenue, le respect de la priorité masculine par l'épouse est une autre des façons qui favorise l'époux. Bon, cela se manifeste par exemple par la priorité donnée au mari d'avoir accès à une formation complémentaire. Aussi, pensons à l'acceptation, l'accord donné par l'épouse de déménager afin que son mari puisse occuper un emploi plus prestigieux ou mieux rémunéré. Et la justification de cette priorité, en fait, généralement, c'est le rôle de pourvoyeur principal de l'époux. C'est comme ça qu'on justifie, que la société justifie le fait qu'il y a priorité masculine et la femme intériorise cette priorité masculine. La conséquence de ce respect par les femmes de la priorité masculine, c'est évidemment le maintien de ce rôle, sa reproduction et sa légitimation. Enfin, la troisième dimension, l'épouse favorise son mari en intervenant directement dans ses affaires. Bon, je cite deux exemples. Par ses qualités relationnelles, on appelle parfois en sociologie le capital culturel, la capacité d'inviter des collègues, de parler correctement, de ne pas dire des bêtises, au contraire, ce genre de choses, en recevant, hein, ça c'est particulièrement, ce qui est vérifié chez les journalistes en particulier. Et puis par une quantité de travaux de secrétariat, beaucoup de mes collègues ont leur thèse tapée par leurs femmes. Et une preuve parmi d'autres, hein, et nombreuses autres preuves, de cet investissement direct dans les affaires des maris, il me semble que c'est ces nombreuses, à mon avis trop nombreuses, dédicaces à l'auteur, de l'auteur à l'épouse sans laquelle telle ou telle œuvre n'aurait pas vu le jour, etc. Une expression anglaise est intéressante, en fait, elle le dit, tout ce que je viens de dire. Les Anglais disent « a two-person single career », une carrière d'un seul à deux. Bon, de manière générale, on peut dire que ce sont les investissements directs dans le mariage, dont je viens d'essayer de faire ce que j'ai très brièvement résumé, mais surtout les investissements exclusifs dans le mariage, lorsque la femme n'a qu'un rôle de femme mariée, c'est-à-dire lorsqu'elle est femme au foyer, c'est ces investissements-là qui rendent la femme dépendante de cette forme de vie mariée, donc à tel point qu'elle a avantage à rester mariée. Et d'autant plus avantage si sa formation n'est pas très, très bonne ou très élevée et si elle n'a aucune indépendance matérielle, c'est-à-dire aucun salaire. Bon, toutefois, je ne crois pas qu'il faut être aussi misérabiliste et les femmes ne perdent pas à tous les coups. Donc, en effet, alors, pour autant qu'elles restent mariées, mais comme beaucoup d'entre nous le savent, ceci ne dépend pas uniquement de nous, eh bien, les femmes y trouvent un certain avantage au mariage. Bon, c'est que les histoires du prince charmant qui épouse une bergère ne correspondent pas à la réalité. Comme l'a montré Dion Kellerage dans une étude sur le mariage sur la Suisse, il y a, dans la majorité des cas, en Suisse également, homogamie dans le mariage. C'est-à-dire que les partenaires proviennent approximativement du même milieu social. Ils sont étrangers au sens où, disons, à la différence des membres des sociétés primitives, ils proviennent généralement de contextes différents, de lieux différents, de villes différentes, voire de pays différents, mais bien qu'ils n'aient pas de passé commun, ce qui était le cas des sociétés dites primitives, leurs passés ont une structure semblable. Bon, cela dit, en ce qui concerne les femmes, on observe en Suisse, toujours dans cette même étude de Jean Kellerhals, une légère hypergamie. Autrement dit, les femmes se marient légèrement au-dessus de leur milieu social d'origine. Et donc, en se mariant, elles améliorent leur niveau de vie et leur statut social. C'est ce qui explique, du moins en partie seulement, mais c'est tout de même ce qui explique pourquoi nous nous trouvons face à deux groupes de célibataires bien différents. Un groupe de célibataires hommes avec un faible niveau de qualification et un groupe de célibataires femmes avec un niveau de qualification élevé. Donc, mais néanmoins, de manière générale, on peut dire que le mariage représente un léger avantage pour les femmes du fait de cette hypergamie. Mais ce n'est pas là le seul avantage que les femmes retirent du mariage. Il y en a un autre. Certaines femmes tirent un profit supplémentaire du mariage. En effet, celles qui épousent des hommes qui ont une très bonne formation, un fort capital scolaire, se voient tirées vers le haut. Leur situation professionnelle tend à s'améliorer. Bon, il y a un exemple que je vais donner qui est basé sur une recherche et qui concerne les sociologues, parce que c'était judicieux. Alors, les sociologues femmes qui sont mariées à un sociologue obtiennent un statut professionnel supérieur au statut des femmes sociologues qui ne sont pas mariées à des hommes sociologues. Mais néanmoins, ces femmes qui obtiennent un statut supérieur du fait qu'elles épousent un sociologue ont, et qu'on se rassure, toujours un statut inférieur au statut de leur mari sociologue. De manière générale, cependant, le coût le plus important de la vie conjugale pour les femmes, et donc ce point de vue concerne notre débat de ce soir, réside dans la difficile reconversion d'une situation à une autre. La reconversion, par exemple, de la situation d'épouse travaillant à l'extérieur ou ne travaillant pas à l'extérieur, à celle d'une femme divorcée qui travaille à l'extérieur. Et comme le dit François de Saint-Gly dans une étude sur justement le prix du divorce intitulée « Fortune et infortune de la femme mariée » avec un peu d'humour noir, Il écrit, je cite, « Le mariage fonctionne comme un système bancaire qui rémunère convenablement les dépôts que les femmes font, mais qui exige en contrepartie que ses clientes soient fidèles et constantes. » Autrement dit, le coût du mariage, pour l'épouse en particulier, se fait sentir à la sortie. Ainsi, à première vue, tout semble concourir à ce que les femmes mariées le restent, ce qui, comme vous le savez tous, ne correspond pas à la réalité. Il y a d'autres raisons, mais je n'aurai pas le temps ici de les aborder, qui expliquent pourquoi de nos jours de nombreuses femmes mariées restent célibataires et puis pourquoi le taux de divorce ne cesse de croître. À propos de ce taux de divorce, je dirais cependant que l'augmentation du taux de divorce ne signifie nullement, comme on le pense communément, trop souvent, que l'institution du mariage est en perdition ou en perte de vitesse, mais elle signifie seulement, elle est un symptôme de la difficulté et du caractère exigeant de l'entreprise du mariage. En fait, le divorce révèle l'importance que l'on accorde dans nos sociétés aujourd'hui à la vie intime, à la réalisation de soi, à l'amour dans le couple. À l'époque où le mariage était plus stable, une base beaucoup plus économique, où les heurts, disons, qui existaient tout de même au sein du couple, ne le menaçaient pas fondamentalement, l'adultère masculin était, bon, relativement admis, ça on le sait, voire toléré. Mais aujourd'hui, alors que l'institution du mariage est fondée principalement sur le sentiment et les affinités personnelles, alors que les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler à l'extérieur et à gagner un salaire qui dorénavant est indispensable à l'unité familiale, hein, on constate qu'au niveau de l'adultère en particulier, rien n'a changé. Il me semble que les femmes adultères se voient toujours pénalisées. Bon, elles courent de nombreux risques, mais dont celui, je crois l'avoir entendu, mais ce n'est pas mon domaine, dont celui peut-être de perdre une pension auquel elles auraient droit. Donc sans m'immiscer dans ce débat de droit, sur le droit, je voudrais simplement rappeler que le principe d'égalité formelle entre hommes et femmes, qui est beaucoup trop souvent invoqué pour pénaliser les femmes, qu'elles fassent de l'armée, qu'elles travaillent la nuit, etc., la retraite, etc., le principe d'égalité formelle exige d'admettre que sur ce plan-là, eh bien, il n'y a pas de différence, en fait, sur le plan des torts, sur le plan, de, comme a dit M. Cornu, de celui qui n'est pas innocent. Autrement dit, si on en reste au seul principe d'une égalité formelle entre les sexes, on ne peut pas transiger sur ce point-là. Si par contre, on prend en considération la situation sociale, les aspects sociaux, les aspects historiques qui expliquent cette différence, cette inégalité dans l'évaluation des torts des unes et des autres, alors il nous faut tenir compte d'un autre fait, cette fois-ci aussi vérifié dans les recherches, en tout cas dans les recherches de sociologie, cet autre fait, c'est le coût du mariage pour les femmes lorsqu'elles en sortent, qu'elles aient des torts ou non. Moi, je suis personnellement d'avis que l'on ne peut pas en rester aux principes formels, soit important qu'ils existent, bien sûr, et que l'égalité de traitement exige que l'on se confronte aux conditions différentes et inégales qui sont faites aux femmes en comparaison avec les hommes. Et il me semble qu'un des outils de la domination masculine consiste précisément à confondre ces niveaux, ou bien peut-être mieux à passer d'un niveau à l'autre, ce qui a pour conséquence un peu de brouiller le débat ou de pétrifier les positions. Pour conclure, je dirais simplement que le mariage est une entreprise de socialisation, non seulement des enfants, mais aussi des adultes, et que pour l'instant encore, le mariage fonctionne largement comme une entreprise de socialisation au rôle d'épouse, au rôle de mère, mais aussi largement et avec autant de force comme une entreprise de socialisation au rôle de père, au rôle de pourvoyeur principal, sinon unique. Donc l'institution du mariage, qui comme vous le savez bien, est plus que la somme des parties, plus que l'addition de deux conjoints, ne peut pas être réduite, même lorsqu'il y a dissolution, à deux individus isolés. Ceux-ci, disons, une fois le mariage dissous, ne sont plus identiques à ce qu'ils étaient, ils ne sont plus les mêmes, bien sûr, mais ils sont simultanément différents des individus qui n'ont pas connu le mariage, des individus qui n'ont pas été socialisés par le mariage. Par conséquent, disons, ce qui s'échangeait autrefois dans la situation du mariage, relativement aisément, ce qui se donnait, au fond, grâce à ce ciment social qu'est l'amour conjugal, ne trouve aucun principe, aucun équivalent en principe. Un salaire, disons, sous la forme d'une pension, sous forme tout de même de salaire, relève d'une autre scène, la scène du public, la scène de la sphère publique, la scène du marché, celle du monde du travail. Et que ce soit actuellement, disons, le seul moyen dont dispose la société puis la justice pour remédier à la situation, pour aplanir les difficultés, pour adoucir la vie, ne signifie pas, me semble-t-il, qu'on ne doive pas réfléchir sur la nature même de la mesure, de ce que signifie une pension. Et on le sait, plusieurs de mes collègues me l'ont confirmé, dans certains cas, dans certains divorces, et probablement les plus nombreux, il n'y a rien à partager une fois les pensions fixées pour les enfants, parce qu'il n'y a pas de surplus ou pas de superflu. Cela ne veut pas dire pour le sociologue que rien n'a été donné, que rien n'est dû, qu'il n'y a pas eu travail, mais cela veut simplement dire que la sphère privée, les femmes en priorité, fournit un apport que l'on ne peut pas mesurer, que l'on peut que difficilement évaluer, mais fournit un apport important, je dirais même indispensable, au bon fonctionnement du monde du travail, au bon fonctionnement de la société dans son ensemble, plus largement, et que celle-ci ne paye pas ses dettes. Je vous remercie.
On peut remercier Françoise de cet exposé à la fois très critique et très lucide sur les conséquences économiques du mariage et naturellement les conséquences économiques de la dissolution du lien conjugal. Je vois que le temps passe, on va tout de suite passer à l'exposé suivant et je passe la parole à M. le professeur Grosson.
Merci. Madame la Présidente, j'aimerais essayer de dire trois choses. Je n'aurai guère de loisir d'entrer dans beaucoup de détails techniques maintenant. S'il y a des questions auxquelles je puis répondre plus tard, j'essaierai de le faire. Mais trois choses principalement que je voudrais faire précéder de quatre brèves remarques préliminaires. La première est pour vous remercier de m'avoir invité. Je ne me sens pas tout à fait un étranger du dehors dans cette salle, mais quand même légèrement exotique par rapport aux origines de la plupart d'entre vous. Je suis sensible à cette confiance. Deuxièmement, de l'exposé à la fois riche de substance et si sympathique que nous venons d'entendre, je ne rapporterai peut-être pas à la maison la phrase suivant laquelle la femme paye le plus lourd tribut au mariage, mais je serais enchanté de dire à ma femme, car c'est ma profonde conviction, que le mariage est très favorable à la carrière des hommes, surtout lorsqu'ils viennent de milieux défavorisés. Pour avoir été un double orphelin à la charge de l'assistance publique, je crois pouvoir dire que j'ai appartenu une fois à un milieu assez défavorisé, et puis les choses se sont arrangées dans une certaine mesure, et j'ai le vif sentiment de le voir, entre autres, aux 35 années de mariage que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Ma remarque préliminaire suivante se rapporte au texte que Mme Sever nous a lu, le texte de M. Cornu, surtout cette phrase qui disait que le juge a plus ou moins perdu le sens de la base légale. Ça me paraît vrai, mais il me paraît peut-être utile de perdre deux phrases pour dire que le juge a quelque excuse à avoir perdu ce sens. Indépendamment du caractère démodé des textes, je ne crois pas que le caractère démodé des articles 151 et 152 soit la seule explication du phénomène. Je vous en offre en tout cas deux autres qui sont les suivantes. Premièrement, le tribunal fédéral a jugé depuis longtemps que les conséquences pécuniaires du divorce, en tant qu'elles affectent les époux eux-mêmes, était avant tout leur affaire et que par conséquent, il était loisible aux époux de passer convention à ce sujet, comme aussi sur le sort des enfants. Mais avec cette différence, nous dit le tribunal fédéral, que lorsqu'il s'agit du sort des enfants, le juge se doit de vérifier que les arrangements pris sont conformes aux intérêts des enfants, tandis que s'il s'agit des indemnités et pensions, le juge, selon la même jurisprudence, peut limiter davantage son examen et se borner à voir que la convention soit claire, complète et pas manifestement inéquitable. Et en fait, naturellement, ce qu'il arrive constamment, et le tribunal fédéral a d'ailleurs dit en autant de mots qu'il n'y avait pas d'objection à cela, ce qui arrive, c'est que somme prévue dans les conventions soit supérieure à ce que le juge eut sans doute alloué dans le même cas, ou au contraire inférieure, mais sans qu'il y ait à cela de censure. Mais c'est évident que si vous avez beaucoup de conventions et beaucoup de conventions qui s'écartent justement de ce qui était la norme originale, eh bien la pratique judiciaire peut vous laisser l'impression qu'elle gambade à une distance confortable de ce que voudraient les textes. Et puis il y a une deuxième raison que je ne donne qu'avec tout le respect que j'ai pour le tribunal fédéral et avec sa deuxième cour civile, mais j'y suis encouragé par un petit livre récent de M. Kehl. M. Robert Kehl a été pendant des décennies le greffier de la première cour de l'Obergericht zurichois. Et ça, c'est en Suisse la cour d'appel qui a la pratique la plus énorme en matière de divorce. Donc il sait de quoi il parle. Et je vous livre entre autres la conclusion de ce petit livre qui consiste à dire les critères du tribunal fédéral ne sont plus très clairs et de surcroît le tribunal fédéral lui-même ne s'y tient pas nécessairement. Et vous savez, en un quart d'heure, on ne peut pas démontrer ça. Il faudrait aligner un certain nombre de décisions, mais c'est bien le cas. De telle sorte que le juge peut effectivement être emprunté ou au contraire avoir le sentiment que la meilleure solution est que les époux s'accordent sur le contenu de la convention qu'ils lui soumettent. Mais ceci dit, j'aborde aussi vite que je le peux les trois points ou trois réflexions, pour prendre un grand mot, que je me permets très de vous soumettre. Je les articule en forme de thèse, si vous voulez. La première sera pour dire, je laisse de côté le cas des époux richissimes dont il a été question, ou le cas aussi de ceux qui sont pauvres comme Job, et où il n'y a vraiment pas moyen de fixer des sommes, en tout cas des sommes de quelques substances. Et j'admets que dans la grande majorité des cas, les sommes qui sont retenues vont être trop lourdes pour la personne qui devra les payer et trop légères pour la personne qui devra les recevoir. Avec le résultat qu'évidemment ces pensions et indemnités ne peuvent être que des mal-aimés. Les plus énergiques sur cette terre en tirent cette conclusion courte que l'institution est mauvaise dans son principe et qu'il faudrait s'en passer. J'ai même d'anciens étudiants qui ont proposé en autant de mots que tout le système devrait être remplacé par une catégorie nouvelle de prestations sociales, et puisque je suis à Lausanne, je relève au passage que M. Gillian, par exemple, a émis une idée fort semblable. Si on pouvait, je ne dis pas. Au rythme fulgurant de la 10e révision de l'ABS, je n'ai pas l'impression, vous me pardonnerez, que on galope vers une nouvelle forme de prestation sociale. Donc j'admets que trop lourde ou trop légère, c'est tout de même un mécanisme indispensable et qui devra être prévu dans la plupart des cas. À cause des protestations auxquelles j'ai fait tout à l'heure allusion, dans plusieurs pays, par des lois qui datent maintenant d'un peu plus de 10 ans, on a prévu, ça a été le cas en République fédérale, ça a été le cas au Royaume-Uni, dans d'autres pays aussi, on a prévu des dispositions nouvelles disant que, en autant de mots qu'en principe, chaque époux après le divorce doit pourvoir lui-même à ses besoins, que dans des circonstances exceptionnelles, il y aurait toutefois pension. Puis on énumérait des circonstances exceptionnelles. L'adjectif utilisé par exemple au palais de Westminster a fait un énorme plaisir naturellement à ceux qui réclamaient l'abolition des pensions et indemnités. Ils ont pensé que désormais elles seraient plutôt rares, et je peux vous dire que tant en Allemagne qu'en Grande-Bretagne elles ne sont pas plus rares qu'auparavant. Elles correspondent à un certain nombre de situations typiques dont nous reparlerons et qui ne peuvent pas être effacées par un trait de plume. Et ce qui reste, la question sans doute la plus intéressante, les juristes ont des chemins plus sophistiqués pour répondre à de telles questions, mais je pense que les intéressés les plus directs sont sollicités surtout dans leur attention par la question combien est-ce que je reçois ou combien est-ce que je fais et pour combien de temps. Et ça, c'est mon deuxième point. Je dirais qu'à ce propos, malgré toutes les réclamations qui sont formulées dans le sens d'une plus grande sécurité du droit, entendez que beaucoup de nos contemporains voudraient mieux savoir d'avance à quel chiffre on va. Je crois que malgré cette réclamation, dont le sens est évident et que chacun comprend et qui est de surcroît légitime, on ne coupera pas à la nécessité d'un certain pouvoir d'appréciation. Ou alors on y coupera seulement, par, comme maintenant, par le moyen de la convention. Si les époux sont d'accord de prendre ce court chemin, ils éviteront au juge la tâche de procéder à une appréciation. Mais des barèmes, tels qu'il en existe dans les Länder d'Allemagne, par exemple pour les enfants nés hors mariage, les tabelles de Düsseldorf et d'autres, il y a aussi des schémas en Autriche, je ne pourrais pas les recommander pour notre pays, et beaucoup d'entre vous le savent sans doute, là où il y a des barèmes, ces barèmes opèrent toujours un nivellement par le bas. C'est que si on veut fixer des chiffres, on ne peut pas les fixer trop haut, et par conséquent, par une sorte de réflexe de prudence, on va toujours se trouver à l'étage inférieur plutôt que supérieur. Alors, la question est de savoir dans quelle mesure on peut tout de même enserrer ce pouvoir d'appréciation dans certaines règles. Le tribunal fédéral a fait un effort certain dans cette direction, notamment à partir d'un célèbre arrêt 111 de 307, qui est donc un arrêt de 1985, où on nous dit qu'il faut avoir égard à l'âge, à la formation professionnelle, à la durée du mariage, et d'autres critères, autant consacrés aux enfants, à la question de savoir si on a pu poursuivre une activité professionnelle pendant le mariage, ou si on l'a interrompu, et dans cet arrêt de 85, on mentionnait encore la faute des arrêts ultérieurs du tribunal fédéral, et notamment ceux qui ont été rendus après le 1er janvier 1988, ne mentionnent plus ce dernier critère. Je crois qu'effectivement, on n'y coupe pas au recours à de tels critères. Il me paraît tout à fait évident qu'on ne peut pas traiter de la même manière une personne de la plus parfaite santé et une autre qui est au contraire gravement handicapé, qu'on ne peut pas traiter de la même façon celle qui n'a aucune formation professionnelle et celle qui, au contraire, pourrait exercer ses talents dans un domaine où ses talents sont particulièrement demandés. Tout au plus, reste-t-il, tout au plus, ça n'est pas une question négligeable, la question du rapport entre ces différents critères. J'écris quelque part, et je vous livre encore cette réflexion au passage, qu'une chose m'a surpris dans la jurisprudence. D'abord, il y a eu une tentation de schématisme aussi. On a dit il faut tenir compte de l'âge. Et peu après, on a dit l'âge fatidique, c'est 45 ans. Après 45 ans, il devient décidément difficile pour une femme de se réinsérer dans une vie professionnelle. Avant, ça devrait encore aller. Mais naturellement, le tribunal fédéral a dit sa défense, ce sera en général comme ça, et dans des arrêts plus récents, assouplit la proposition, parce qu'on ne peut pas faire autrement, n'est-ce pas ? Là, de nouveau, à 43 ans sans formation professionnelle, on est sans doute dans une situation au moins aussi difficile qu'à 47, avec un métier très demandé. Je crois donc qu'on doit accepter cela, qu'il y ait des recours. À l'occasion, c'est ennuyeux. Dès l'instant qui dit pouvoir d'appréciation, on dit que, et Dieu sait que c'est un domaine où les gens quelquefois parlent, ça dépend aussi de leur domaine d'activité, mais par exemple, dans une grande fabrique, dans un grand magasin, on le voit toujours. Il y a plusieurs personnes qui ont divorcé, ils échangent leurs impressions. Pourquoi est-ce que tu reçois tant ou payes tant alors que moi je reçois tant de moins ou paye tant de plus? On ne peut pas éliminer ce phénomène, si désagréable soit-il, et lors même qu'il est perçu par beaucoup comme une insuffisance de l'appareil judiciaire. Je crois encore une fois que l'autre terme de l'alternative, c'est le schématisme absolu qui lui aussi ne manquerait pas d'être désastreux. Et ma dernière remarque générale en forme de thèse aussi va être la suivante, de toute, je vous l'ai dit, sous réserve de discussions ultérieures. C'est vrai que le code est démodé, Madame Norman sait que j'ai des raisons particulières de souhaiter que l'exercice s'arrête une fois, cet exercice de réforme. Je serai très content quand la réforme soit sous toi, je ne doute pas un instant de sa nécessité, mais ça ne m'empêche pas de dire aussi qu'il ne faut pas, parce que les textes sont démodés, les remplacer par des solutions qui seraient décidément en porte-à-faux complet avec les réalités sociologiques qu'on vient de nous décrire. Et le danger avoir certaines pratiques n'est pas inexistant. J'ai lu l'autre jour une réflexion, excusez-moi de la répéter, mais elle m'a tellement sidéré que probablement je la répéterai encore plusieurs fois. Une étude comparative entre la France, le Royaume-Uni et notre pays aboutit à la conclusion qu'au Royaume-Uni, les prestations sociales sont plus importantes que chez nous pour une personne divorcée, qu'en France, ce sont les pensions qui tout de même sont plus souvent plus hautes et fixées par les juges, hein, pas par convention, plus fréquentes aussi. Qu'en Suisse, donc, nous sommes en dessous, à la fois pour ce qui concerne les prestations sociales et le montant des indemnités. Et la conclusion de l'étude en question consistait à dire que c'est la femme suisse qui était la plus favorisée, parce que, ayant le moins, elle était aussi le plus incitée à apprendre à se débrouiller seule. Alors, ça m'a rappelé, n'est-ce pas, les leçons de natation au collège. Le maître de gymnastique plantait à l'eau tous ceux qui ne savaient pas encore nager, avec un résultat très positif pour une moitié qui, en effet, apprenait à nager, mais l'autre moitié était dégoûtée du lac et de l'eau pour le restant de ses jours. Bien, dans le cas particulier, si je transpose cette histoire, je dirais qu'évidemment, si on veut me dire que le père de jeunes filles, les parents qui ont des filles font bien de les encourager à avoir la meilleure formation possible, les encourager à ne pas abandonner trop vite, trop facilement ou trop longtemps l'art ou la science qu'elles auront apprise, je pense que ce sont là d'excellents conseils et qui sans doute sont déjà assez largement suivis. Mais pour autant, négliger le fait que en Suisse tout de même, la proportion des femmes qui exercent une activité lucrative pendant leur mariage, quoique croissante, reste inférieure à celle de la plupart des autres pays européens, ignorer le fait qu'il s'agit souvent de travail mal payé, ignorer le fait qu'il s'agit souvent de ces activités à temps professionnel qui au patron rapportent au moins autant qu'une activité à temps plein, mais sont beaucoup moins rémunérés, c'est se voiler la face devant un certain nombre de réalités qui, à mon avis, font que, je ne prétends pas être prophète dans les millénaires, mais qu'à vue humaine, on ne pourra pas se passer de cette institution que je jugerais totalement désagréable si elle ne valait pas des réunions aussi agréables que celle-ci.
D'avoir exposé d'une manière aussi agréable un sujet aussi ardu et finalement avoir rejoint sur bien des points l'exposé de notre sociologue. Et c'est une chose réjouissante que de voir qu'on arrive à se comprendre entre différentes matières et différents spécialistes. Je passe enfin la parole à notre dernière intervenante ce soir, Maître Norman, Ursula Norman Zimmermann de Lausanne, qui nous présente son exposé. Mise en valeur de la notion de faute.
Je pense qu'il y a souvent une mauvaise application de la loi pour votre première question, ou de l'égalité. C'est l'application pervers de l'égalité qu'on voit partout.
Mais je n'ai pas très bien compris le sens de la question, excusez-moi. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez, ce recours à la notion de faute, ou que vous condamnez?
Si j'ai bien compris, le raisonnement consiste à dire, dans certains cas, mais on dira les enfants ont passé cette limite d'âge, ils ne sont plus le souci premier de cette dame, donc ce qui permettrait d'atteindre davantage d'elle qu'elle se livre à une activité lucrative. Mais ça vous paraît sévère et vous voudriez que si cette dame, par ailleurs, est l'épouse innocente, alors on tienne compte de ce facteur-là.
Oui, oui.
C'est ça l'idée.
Oui, moi je trouve que l'application schématique de cette idée, la femme a qu'à se débrouiller, du moins que les enfants sont dans la coquille, peut conduire à quelque chose de très injuste. Quand parallèlement on a affaire à une rupture qui est manifestement pas simplement un échec.
Alors je suis d'accord avec dans votre diagnostic du mal, mais moins sûr quant à la thérapie. Le diagnostic, mes enfants sont plus âgés et mes petits-enfants plus jeunes, donc c'est en toute tranquillité que je peux dire que je ne comprends pas très bien en quoi 16 ans est l'âge à partir duquel il n'y a plus de problème ou les enfants auraient besoin de moins d'attention. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'à tout le moins, ça ne devrait pas être appliqué de façon automatique. Je ne sais pas. Je vois maintenant à mes cours des jeunes gens qui ont de graves handicaps physiques. Autrefois, on ne voyait pas ça. Mais maintenant, grâce aux appareils de toutes sortes qui existent et au rôle des associations qui s'occupent d'enfants handicapés, on en voit dans nos auditoires. Mais je suppose qu'on surprendrait bien les parents de tels jeunes gens en leur disant que peut-être même majeurs, n'est-ce pas, ils ne posent plus aucun problème. Mais alors, je crois que la solution est justement d'éviter le schématisme. Si on veut prendre le degré de scolarité comme point de départ de la réflexion, pourquoi pas, mais ça ne devrait pas être l'aboutissement. On devrait voir encore les autres. Mais se rabattre sur la notion de faute pour corriger, je ne crois pas que ce serait très utile. Pour le dire très franchement, je crois aussi qu'il est préférable de regarder l'avenir plutôt que de remuer tout ce qui appartient au passé. En cela, donc, je serais d'accord avec ce que Mme Dorman vous a dit, avec la réserve qu'elle a d'ailleurs faite, où il y a des cas où il serait décidément, manifestement, inéquitable ou abusif. Vous avez réservé l'abus de droit d'accorder des prestations. Mais sinon, alors non, je ne crois pas que ce serait une bonne idée et je ne crois pas que la pratique soit allée dans ce sens. Peut-être dans la discussion entre époux, toutes les décisions ne sont pas publiées, on ne connaît pas toutes les conventions. Je peux m'imaginer qu'il arrive quand même encore des cas où un avocat dit à son client, vous savez, jusqu'à nouvel avis, il y a encore un article 142 alinéa 2, et à la rigueur, votre épouse pourrait quand même s'opposer au divorce, quitte à appartenir à une espèce désormais plus rare que ce qu'on avait autrefois. Mais sans que les choses aillent jusque-là, ça peut évidemment avoir une certaine influence sur la conversation et la suite. Donc, naturellement, on ne peut pas empêcher les particuliers de porter un jugement moral, de quêter l'approbation de leurs proches, de recevoir ces brevets d'innocence. Mais là aussi, je suis d'accord avec Mme Dorfman pour dire que ça n'est peut-être pas nécessairement à cette fin que la justice devrait être utilisée.
Est-ce que vous êtes satisfaite de la réponse à la première question ?
D'un
autre point de vue, moi, il me semblait que je comprenais différemment ce que vous vouliez dire, ne pas mettre au rancard l'idée de faute. Je pense qu'il y a quelque chose que je partage avec vous, dans le sens que si on fait l'analyse du mariage, du coût du mariage, comme je l'ai fait, du rôle du pourvoyeur en critiquant les maris, etc., il faut aussi se rendre compte qu'il y avait dans ce mariage-là, dans ce prix du mariage, il y avait l'idée justement de l'innocence présumée. C'est quand même quelque chose qui nous vient de l'histoire. Et un mari qui abandonnait ses enfants, non pas un mari adultère, mais un mari qui quittait sa famille était fautif. Mais une femme qui trompait son mari était fautive. Et je crois que c'est quelque chose qu'effectivement, bien qu'on doit regarder, je suis entièrement d'accord avec vous, vers le futur, c'est tout de même quelque chose que nous avons en nous encore maintenant. Et ces choses-là, je ne crois pas qu'on peut en faire fi aussi rapidement, mais on peut peut-être pousser les choses de façon à ce qu'elles évoluent différemment. Mais cette idée de tort existe bel et bien. Différemment pour l'homme, pour la femme, elle existe pour les deux, encore maintenant.
Pour moi, je pense que c'est pas la place, la justice, et la justice ne peut pas le faire. C'est pour ça que je pense que ce serait mieux que pour assumer l'échec du mariage, parce que c'est en fait de là où les gens souffrent, il ferait mieux de regarder, d'essayer d'analyser les questions psychiques derrière, au lieu de prendre cette honte et cette innocence qui est extrêmement difficile à prouver. En revanche, je pense qu'il y a eu des jugements qui sont, comme je disais tout à l'heure, pervers, mais ce n'est pas en reprenant la faute, c'est en interprétant autrement les besoins. Moi, je constate que les juges, ou souvent des juges de première instance, conseille à la femme de se contenter de peu en disant, si vous voulez plus, selon la jurisprudence, vous pourriez l'avoir, mais il va de toute manière alors lui payer. Et ce genre de critères qui me paraissent un relâchement inadmissible, parce que la situation actuelle économique pour les femmes est extrêmement dure, hein, pour les femmes divorcées. Quant à votre deuxième question, la compensation des pertes, qu'est-ce qu'en pension AVS, moi, j'essaie de les résoudre de la manière suivante. Je demande d'être une pension passagère et ensuite une pension à payer à partir de l'âge de la retraite. C'est qui peut le plus peut le moins, donc vous pouvez absolument obtenir ça en jugement. Ça a l'avantage, et par convention aussi, parce que c'est très loin, et vous pouvez encore dire au mari, oh, de toute manière, elle va se remarier, à ce moment-là, ça tombe à l'eau. Ce qui est d'ailleurs injuste, à mon avis, parce que ça ne devrait pas être le cas, mais ce qui est loin, on signe plus facilement. C'est comme ça qu'on peut le faire. S'il n'y a rien, il n'y a rien.
Bon, c'est aussi comme ça que je procède, mais c'est pas une garantie parfaite non plus pour la mère, pour l'épouse, parce que si l'épouse décède, elle n'a pas de droit à une compensation.
Oui, enfin, toutes ces questions, dès que ça touche les assurances sociales, sont extrêmement compliquées. Parce que si on partage la LPP accumulée pendant le mariage, l'assurance invalidité du l'épouse va payer, donc en général le mari, pèse énormément parce que son capital n'est plus que la moitié. Et si par hasard il devient invalide ou il décède, les rentes orphelins seront aussi de la moitié, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus compliquées qu'on croit. C'est pour ça que ce n'est pas encore entièrement déterminé. Vous pouvez demander que le mari paye une prime d'assurance. Hein.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Oui, moi je voulais peut-être juste toujours répondre à la première question de Gisèle. Dans son cas, est-ce que plutôt que de reparler des torts, est-ce qu'elle ne pourrait pas peut-être alors évoquer, ou sa cliente pourrait évoquer son absence de formation professionnelle, ou d'autres critères encore, parce que finalement, l'âge des enfants, c'est un des critères, mais enfin, il y en a d'autres qu'on peut invoquer, enfin, pour sans doute voir quelles espèces. Moi, j'aimerais revenir un peu sur l'antagonisme, d'une part l'affectif, et puis d'autre part le financier, à laquelle Françoise Messin a fait allusion tout à l'heure. J'adhère tout à fait aux critères objectifs qui seront sans doute l'objet de la nouvelle loi, mais c'est vrai que dans la pratique, on constate que les gens restent, de fait, bon, peut-être ça passera au fil des années, crochés sur ces histoires de tort, ils m'ont abandonné, que ça soit l'homme ou la femme, peu importe, mais il m'a abandonné, ou bien il m'a fait du tort, et puis je veux lui faire payer dans le divorce. Et ça, c'est vraiment, je trouve, dans la pratique, une donnée qui est constante, même si on arrive à un arrangement, parce que ça fait partie de la négociation, cette chose-là. Donc, bon, moi j'ai une espèce de malaise par rapport à ça, parce que on aura quand même dans les faits beaucoup de peine à évacuer cette donnée-là, me semble-t-il, dans la négociation des choses ou dans les décisions qui seront prises. Enfin, je pense que ce que vous en pensez, mais...
Je juste une chose. Je crois qu'on peut discuter largement et il y a certainement de très bons motifs pour évacuer la faute dans le divorce, mais je crois pas qu'on puisse dire que c'est une question que les juges ne sont pas armés ou ne peuvent pas résoudre. On demande aux juges de statuer sur la faute dans pratiquement tout ce qui relève du droit, que ce soit un droit civil, une responsabilité civile ou un droit pénal encore plus. Donc les juges peuvent statuer sur des fautes. La preuve peut être difficile, c'est effectivement le problème de la vie intime, mais enfin la preuve de la faute est difficile aussi quand vous devez essayer de rechercher un responsable dans le cadre de l'article 41 du Code des obligations. Donc ça n'est pas un critère inapplicable et il correspond effectivement, je crois, beaucoup au ressenti des gens. Ma très brève expérience de président de tribunal montre qu'on a beaucoup de peine à faire comprendre aux mesures provisionnelles ou aux mesures protectrices d'union conjugale où la faute ne joue aucun rôle, véritablement aucun rôle quelconque pour la fixation des pensions aux deux époux qui n'ont pas à nous parler du pourquoi de leur difficultés. Enfin, on peut avoir besoin d'en parler pour d'autres raisons, mais en tout cas, pour fixer les pensions, ça n'est pas pertinent, et ils n'acceptent pas, ils l'acceptent en tout cas très mal. Or, c'est là un domaine où le juge fixe beaucoup de pensions, beaucoup plus qu'il fixe de pensions après divorce, parce que, effectivement, au stade du divorce, il y a énormément de conventions. Et on se retrouve tout le temps avec des parties qui veulent à tout prix nous convaincre que l'autre est fautif, est plus fautif, et agit injustement, enfin, etc.
Est-ce que j'ose dire sans impertinence qu'il y a tout de même une différence fondamentale entre les cas, par exemple, de responsabilité et ceux dont nous parlons ce soir? Dans la responsabilité, vous avez généralement à juger d'un événement qui s'est passé à un moment tout à fait déterminé. Est-il imprudent de se lancer sur la route à tel moment? Était-il faux de mal réparer la ceinture du maître ouvreur, etc. Ici, dans le cas du mariage, vous devez apprécier des comportements déjà dans une certaine durée, alors que comme tribunal, vous ne recevez que des instantanés, ce qu'on vous livre, mais vous n'avez pas le film de la vie, les enchaînements des fautes. Le tribunal dit qu'il faut tenir compte. Un époux qui a commis une faute grave, selon la dernière leçon, peut être néanmoins innocent s'il a réagi à une provocation. Donc c'est bien l'idée qu'il peut y avoir des enchaînements de fautes. Et d'autre part, il y a toute cette pratique qui justement révèle si peu au juge. Dans mon canton, et maintenant dans beaucoup d'autres, mais autrefois c'était une particularité, un seul avocat peut intervenir dans la salle d'audience, il ne peut pas se mettre de deux côtés, il se met généralement avec la femme. Et je me suis trouvé une fois dans la situation suivante, les deux époux avaient commis adultère, et en fait ils avaient l'un et l'autre déjà en vue leur prochain conjoint. Mais ils ont le mémoire classique, les premiers temps du mariage furent heureux, par la suite ça s'est gâté, etc., et plaider, disons, l'incompatibilité d'humeur pour faire court. Et puis, bon, chacun a raconté cette histoire, quelques amis très proches sont venus dire, nous les adorons tous les deux, ils sont charmants tous les deux, mais le fait est qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Et le juge qui était ce jour-là d'humeur inquisitoriale ne s'est pas laissé convaincre. Et il a dit, il y a autre chose là-dessous. Et il a tellement insisté auprès de la femme que cette dame, au bout d'un moment, s'est mise à pleurer et elle a avoué l'adultère de son mari. Et le mari s'en est tenu à ce qui avait été dit, n'a pas soufflé les mots. Et le juge a prononcé le divorce pour adultère du mari. Il a fixé une interdiction de remariage parce que la Cour européenne n'avait pas encore interdit le recours à l'article 150. Et en levant l'audience, il a dit, à moi, on ne la fait pas. Et je dois dire, c'est ça qui m'a rendu profondément sceptique sur la réelle aptitude des avocats autant que des juges, parce que souvent l'époux commence par plaider sa cause auprès de son avocat. Lui aussi n'a pas nécessairement droit à des révélations complètes. Alors, ça aussi, n'est-ce pas, ne contribue pas nécessairement à la gloire des tribunaux, mais en tout cas j'insiste sur le fait que c'est une tâche bien différente d'apprécier la faute lorsqu'on parle d'un mariage qui a duré 10 ans, 15 ans, ou lorsqu'on juge du comportement d'un seul jour. Alors c'est ça qui m'a fait me rallier à une vue que je n'aurais peut-être pas entretenue naturellement, pour tout vous dire, mon penchant naturel serait plutôt d'avoir un jugement assez sévère vis-à-vis, par exemple, de ceux qui ignorent le commandement auquel vous faisiez allusion dans votre intervention tout à l'heure.
Il y a peut-être encore un autre facteur qui parle pour abandonner la faute. Nous vivons dans une société qui est de plus en plus multiculturelle. Et pour celles et ceux qui ont déjà fait des divorces, de personnes d'une autre culture, que ce soit Afrique du Nord ou Turc ou Yougoslave, etc., avec des personnes d'ici, on se rend compte qu'il y a une telle autre vue des choses. Bon, on se demande d'abord pourquoi ils ont pu se marier, mais ça c'est autre chose. Mais que ce n'est pas possible, parce que ce qui est fautif, dans l'idée, je ne parle pas dans le droit, dans une culture, n'est pas du tout dans l'autre. Et là, si on continue à maintenir la faute comme critère de la pension, je crois qu'on établit une monstre discrimination par rapport aux gens qui n'appartiennent pas à notre culture.
François ? Je veux juste revenir sur ces évacuer l'affectif. Il me semble que quand on parle de l'affectif avec les juristes, on glisse sur la faute. C'est peut-être un peu réduire l'affectif. Je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça. Vous dites pour qu'il y ait de l'affectif au moment des divorces, etc. Moi, ce serait comme demander qu'au moment du mariage, il n'y en ait pas. N'est-ce pas ? Le fait de mariage sans amour, sans affectif, sans... Je ne vois pas, c'est pas possible d'imaginer un divorce, une dissolution, à moins que celle-ci ait eu lieu bien avant, et à ce moment-là, il y avait aussi de l'affectif. Que le juge doit juger avec ces sentiments-là, je crois que ça, c'est quelque chose d'inhérent au mariage et par conséquent au divorce. Le problème, me semble-t-il, c'est pas tellement, comme le disait Ursula, qu'il faudrait recourir au psychiatre, ce qui peut être le cas, aux thérapies de temps en temps, quand c'est vraiment nécessaire. Mais c'est un problème vraiment social. L'affectif fait partie du mariage, de la dissolution du mariage. Le sentiment est très fort. Et il est d'autant plus fort, et donc le rôle des juges me semble d'autant plus important, que la communauté traditionnelle a perdu de son importance pour peut-être résoudre, se dissolve peu à peu ces sentiments douloureux qui, dans le mariage ou à d'autres moments, peuvent être heureux, mais qui sont exactement du même ordre. Et comme la communauté, ou le voisinage, ou la parenté tend à se résumer à bien peu de choses parfois, évidemment, entre le couple seul, relativement seul dans nos sociétés, et le juge, les intermédiaires sont rares, et de ce fait-là, l'affectif va probablement jusque dans les salles des tribunaux. Mais vouloir l'évacuer me semble, en tout cas d'un point de vue sociologique, même d'un point de vue personnel, une illusion, une utopie. Ou alors il est refoulé. Mais comme je ne suis pas freudienne, on ne peut pas voir ce que seraient les conséquences.
En fait, pour répondre, enfin, ajouter quelque chose à cette réflexion, je pense que nul ici ne conteste l'existence d'une rupture affective au moment où il y a rupture du lien conjugal. Ursula a expliqué, ce qui résulte au fond aussi de la jurisprudence, c'est que la faute n'est plus déterminante. Savoir qui est coupable, qui est responsable, on admet qu'il y a un contexte affectivement vécu et déterminant pour bien des décisions ultérieures, mais on estime que ce contexte ne doit pas être apprécié à la seule lumière de la faute d'un des conjoints qui porterait le fardeau d'une dégradation qui s'est peut-être déroulée sur beaucoup d'années. Donc l'affectif, personne ne songe à l'évacuer parce qu'il sera toujours présent au moment des divorces, mais il ne faut pas réduire l'affectif à la faute. Enfin, l'un et l'autre ne se recoupent pas.
Peut-être on peut dire une chose là, c'est que l'affectif, même pour les juristes dans le cadre du procès en divorce, joue un rôle énorme, si ce n'est déterminant, pour la cause de divorce. Parce que pour que deux conjoints puissent divorcer, il faut qu'ils soient divisés. Et le juge doit s'en convaincre. Et la cause de divorce qui est le plus appliquée de nos jours, c'est la cause indéterminée de l'article 142. Il faut une rupture du lien conjugal, ce qui signifie exactement que les gens ne s'aiment plus. Donc l'affectif est important pour la cause du divorce, mais pour les conséquences financières, le projet songe à l'évacuer, c'est une autre question. Est-ce qu'on lie la faute à la pension? C'est une autre question.
On peut évacuer aussi l'affectif dans les causes de divorce. Sauf erreur, en Italie, on a des causes très objectives. On a cessé de vivre depuis tant de temps, donc c'est une cause de divorce, puis on ne se pose pas d'autres questions. Donc c'est possible, mais je ne sais pas si c'est d'un sens qu'on a le projet.
Je voulais justement ajouter avant, évidemment, ce que je viens de dire devrait être vu avec l'entier du projet. Et dans l'entier du projet, la cause de divorce est d'avoir conclu une convention, si je résume, dans le divorce par convention mutuelle, et l'écoulement d'un temps X dans là où il y a des oppositions. Donc la cause devient totalement objective, et on navigue entre les deux suivant où on est. Mais je dis pour. C'est clair.
Ce sera dans les mesures protectrices non conjugales qui viendront nous expliquer pourquoi ils ne s'aiment plus, mais ils viendront l'expliquer quand même, vraisemblablement.
Oui, c'est ce que je dis. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr.
Oui, madame. Oui, je trouve très intéressant les causes du divorce et puis les conflits qu'il peut y avoir. Mais en fait, je pense qu'il y a un problème de pension alimentaire qui est très important. Et je pense que les avocats ont un grand rôle aussi à jouer dans le sens où ils informent malheureusement peu la femme qui se trouve tout d'un coup confrontée à un divorce, lui fait accepter des pensions alimentaires par rapport aux enfants qui sont souvent très très faibles. Et quand on pense à tout l'affectif qu'il y a derrière, à toute cette culture qu'elle doit faire, et en plus de ça, recommencer à travailler, se mettre devant des responsabilités qui sont immenses quand elle a cessé de travailler pendant 10 ou 15 ans, qu'elle a des enfants même qui ont 12, 15 ans, et qui tout d'un coup se retrouve avec, même si elle a travaillé, moi j'ai le cas d'une personne qui travaille à 50%, il a fallu beaucoup de temps jusqu'à ce qu'elle elle soit guérie et qu'elle soit capable de retravailler à 100%. Et là, il me semble que les avocats devraient défendre ces personnes en leur disant les droits qu'elles ont. Parce que ces femmes, elles arrivent, elles sont souvent dans un état de dépression, pas fort, mais quand même, qui est évident. Elles n'arrivent pas à se défendre comme quand elles ont déjà vécu seules longtemps. Moi, je suis célibataire, j'ai pas ce genre de problème, parce que j'ai tout le temps dû me battre, mais effectivement, la personne qui, depuis 10 ou 15 ans, est à la maison, elle n'a pas cette habitude de pouvoir confronter la société, quoi, se confronter à la société. Et là, je pense que quand même les avocats devraient peut-être avoir une petite prise de conscience là-dessus.
Alors, bien sûr, normalement, dans le jeu classique du procès, il y a deux avocats, un de chaque côté, et chacun informe et défend tant qu'il le peut son client. C'est peut-être un des effets pervers de l'introduction de la procédure simplifiée, que beaucoup de gens se disent, nous on veut pour le bien des enfants, pour des tas de raisons, pas faire un divorce sanglant, donc on consulte un seul avocat. Ce seul avocat, il est prié de mettre au point une convention par ses deux clients, enfin c'est presque deux clients pour lui. Et évidemment, il cherche une solution qui pourra être signée par les deux. Par conséquent, il est moins revendicateur au niveau des pensions. S'il est consciencieux, il va quand même proposer des pensions qui sont raisonnables. Mais pour la, s'il voit qu'une épouse lui dit je peux vivre, je peux m'en tirer avec ça, il va peut-être pas beaucoup insister pour que ce soit fixé plus haut. Ça, c'est un des dangers. Le juge va vérifier uniquement pour les pensions des enfants. Les pensions pour l'épouse, il ne s'en occupera absolument pas. Les pensions pour les enfants, il tiquera si c'est vraiment trop bas, mais il ne bougera pas si c'est simplement plutôt bas dans une gamme encore raisonnable. Donc, la solution, ça pourrait être, par exemple, dans ce cas-là, que le conjoint qui a un doute, ou même systématiquement, s'adresse à une permanence juridique ou pour... pour une somme modeste, il peut avoir un avis vraiment jeté au hasard, mais qui, à 100 ou 200 francs près, sera quand même, confirmera que les chiffres qu'on lui a avancés sont des chiffres conformes à la pratique, normaux. Cela à condition que les revenus soient clairs. Évidemment que si en plus il y a des doutes sur les revenus, ça devient difficile. Mais dès qu'on admet qu'on peut avoir qu'un seul avocat, c'est un risque d'être mal renseigné.
Là, je crois
qu'il
y a un cas particulier, il y avait deux avocats. C'est vrai que c'est un...
Alors, il y en a peut-être un qui est mal choisi, mais ça...
Non, mais c'est pas exactement ça. C'est sûr que chacun défend sa cause. Mais je pense qu'il faudrait tenir compte justement de l'état de la personne qui est lésée, qui a ses enfants et qui est dans une situation qui est trop grande pour elle. Et là, en fait, souvent ces personnes ne sont pas au courant de tout ce qui se passe. Elles n'ont pas dans un conseil juridique,
La plupart des avocats doivent bien les renseigner, en tout cas s'ils n'ont aucun conflit de loyauté. Donc, dans le cas, je vois mal, à moins justement de tomber sur un mauvais avocat, ou un avocat qui traite mal ce dossier, que la femme qui consulte un avocat toute seule, alors dans un divorce conflictuel, soit mal renseignée par cet avocat. Alors, vraiment, elle est très mal tombée.
Oui, et puis elle peut résilier à toute minute de mandat, aller chez un autre. Ça peut être...
Que pour autant qu'elles soient au courant de ce qu'elle a le droit, parce qu'il faut pas...
Oui. Mais dans un divorce conflictuel, vous aurez probablement d'abord des mesures provisionnelles. On viendra devant un juge qui fixera une première pension. Il y aura peut-être même plusieurs procédures provisionnelles ou un appel. Tout ça donne quand même des indications assez claires aux parties. D'ailleurs, ça peut assez souvent finir par une convention qui reprend plus ou moins des pensions provisionnelles fixées. Je vois mal comment on peut rater ses droits sur une procédure normale qui dure un certain temps. Évidemment, quand on veut se divorcer en 2 mois, ça peut être risqué. Mais quand on fait une procédure complète, il faut vraiment... Je comprends mal comment ça peut arriver.
Je crois qu'effectivement, madame, les risques peuvent découler d'une procédure trop rapide. Et souvent, les gens veulent absolument que les choses soient réglées aussi vite que possible parce que l'incertitude d'une procédure est aussi lourde à supporter. Et effectivement, moi, je constate aussi qu'avec l'introduction de cette procédure simplifiée, les gens sont divorcés, ils ne savent souvent même plus comment. Une audience de mesure provisionnelle se transforme en une audience de jugement au fond. Et à peine la demande est-elle déposée que les gens se retrouvent avec un jugement de divorce. Donc, ce qu'on a voulu être une simplification désirable et bonne dans les cas où peut-être que la séparation de fait entre les époux durait plus longtemps et où le divorce ne constituait pas un enjeu économique en soi, est devenu une manière de procéder dans beaucoup de cas où on aurait peut-être loisir d'approfondir la situation. Mais il faut dire aussi qu'une procédure de divorce qui est longue, c'est un coût économique qui est important. Donc les gens sont tous poussés à aller vite.
Il y a aussi une protection des enfants. Quand on décide de divorcer vite, c'est souvent une raison grave. Et la personne qui commence à divorcer rapide, c'est souvent parce que de par ses enfants, on peut souffrir des situations souvent graves.
Oui, enfin, il y a des manières de protéger les enfants dans l'immédiat qui n'équivalent pas forcément à un divorce sur le fond. Mais enfin, je comprends votre inquiétude, madame. Oui.
Moi, j'aimerais bien être plus renseignée sur ce que le professeur Gossen a dit tout à l'heure sur ces possibilités de changer complètement le système, c'est-à-dire d'imaginer autre chose que la pension pour l'épouse. Vous avez fait allusion à des propositions de nouvelles catégories de prestations sociales, oui. Vous avez dit. Et puis moi, j'ai lu aussi, mais je ne suis pas très bien au courant. Il y a des milieux qui proposent une assurance divorce, par exemple. J'aimerais bien avoir votre avis et puis être plus informé sur cet aspect-là de la chose.
Oui, donc je vous décevrai forcément parce que les partisans de votre système sont restés très bas. Je peux vous indiquer 4 ou 5 mémoires ou d'organisation ou avis d'auteur où on proposait que ce cas soit considéré, que le divorce soit considéré comme un cas social de plus. Alors l'idée, c'est que nous aurions eu une assurance vieillesse, divorce et survivant. Donc il y aurait une rente spécialement adaptée à ce cas. D'autres, parce qu'ils ne souhaitent pas nécessairement que ce système soit à la charge de toute la collectivité, ont suggéré en effet une assurance privée. Et à ma connaissance, il y a en tout cas une des grandes compagnies qui a réagi en disant qu'elle n'entendait pas dire si c'était vraiment souhaitable, mais qu'en tout cas techniquement, ce serait une chose tout à fait réalisable. Mais ça en est resté là pour l'instant. Il n'y a pas vraiment d'écho à ces propositions. Je crois qu'on ne se rend pas compte ce que c'est. Je vous donne un autre. On ne se rend pas compte. La famille, on dit, bon, la famille et le mariage n'existent pas seulement pour des raisons économiques. Je suis le premier à en convenir. Mais il ne faut pas renverser le charme dans l'autre côté et ignorer ce que représentent la famille, le mariage et la parenté comme base économique de la société. Lors de la révision de la filiation, la question s'est posée, faut-il prévoir une règle qui oblige les parents à pourvoir à l'entretien des enfants, même au-delà du seuil de la majorité. C'est ainsi qu'on a fabriqué cet article 207, cet alinéa 3, qui donne lieu à un contentieux assez ample. Et à l'époque, de plusieurs côtés, même un conseiller d'État, Genevois, avait dit, mais au fond, pourquoi ces brinques d'enfants majeurs avec leurs parents. Pourquoi ne pas prévoir une fois pour toutes que tous les étudiants majeurs sont automatiquement boursiers? Et la conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique, dont je précise au passage qu'elle comptait à l'époque avant tout des conseillers d'État de gauche plutôt que de droite. Monsieur Chavannes, par exemple, était le chef du département à Genève et connu pour la générosité. Et ces messieurs ont tout de suite dit, vous savez ce que ça signifie pratiquement. Et ils ont fait des calculs d'où ressortaient des chiffres incroyables, n'est-ce pas? Et dans le cas particulier aussi, ce serait une charge vraiment tout à fait énorme. Alors je crois que, en tout cas c'est ma conviction personnelle, je ne pose à personne, mais je crois que en fait, cette... solidarité post-matrimoniale est une base absolument nécessaire. On ne peut pas vraiment y couper. Et dans l'élan, j'ajouterais, puisque quelqu'un a fait allusion au problème de la durée, il me semble que là aussi, on saute du coq à l'âne. Pendant longtemps, on a dit qu'il n'y avait pas de limitation de durée, autant qu'il s'agissait de l'application de l'article 151, alinéa 2. Maintenant, on dit que le juge doit regarder d'office s'il n'y a pas lieu de limiter. Et puis, on dit que sans doute, là aussi, il faut appliquer beaucoup de critères et pas être trop schématique. J'essaye de regarder les arrêts rendus. J'ai vu que la durée prévue par les arrêts publiés du tribunal fédéral était toujours de 10 ans, sauf 8 ans dans un cas, alors que les situations des dames concernées étaient foncièrement différentes. Par l'âge, par le nombre d'enfants, par la formation professionnelle, etc.
Mais...
Donc le schématisme, c'est un danger concret.
Mais j'ai l'impression que ça change beaucoup de canton en canton, non? Il y a des moyennes différentes, non? Par exemple, il me semble d'avoir lu que dans le canton de Genève, la durée de la rente pour l'épouse, c'est beaucoup plus court, les rentes à durée déterminée, non? Et puis aussi, les épouses, elles ne demandent pas, en grande partie, une épouse, elle ne demande pas du tout. La rente, elle ne demande pas une pension. Donc il y a tout ce côté. Comment on évalue ce droit en tant que femme? Et c'est vrai qu'il y a des femmes qui ne veulent pas dépendre, qui ne veulent pas. Parce que cet argent, c'est difficile de lui donner un sens. Mais effectivement, moi, ce que j'ai lu des recherches sur le divorce à Genève, et il me semble que la majorité des épouses ne demandent pas la rente.
Pas tout à fait, mais près de la moitié.
Un tiers, oui. Il y a un tiers de rente.
Pas du tout. Mais en attendant votre observation, comme toutes celles que nous avons entendues, surtout ceux qui sont autour, on se rend compte que ces points particuliers s'inscrivent précisément tous dans un contexte très vaste d'une évolution. J'y pensais tout à l'heure à propos de la faute, n'est-ce pas ? Jusqu'en 1942, par exemple, il était certain dans la jurisprudence du tribunal fédéral que l'adultère était par définition la faute la plus grave, le plus grave des manquements au mariage. Il n'y avait absolument pas moyen d'obtenir divorce sur la base de l'article 142 contre quelqu'un qui pouvait invoquer l'article 137, donc l'adultère. Là, on rend cet arrêt Harder qui a permis à des avocats de mari de faire fortune, n'est-ce pas? C'est un arrêt de 1942 qui a dit « Ah non, mais il faut aller y voir de plus près. Il se peut que l'adultère d'un époux soit en fait la conséquence du comportement de l'autre. » Et on a dit ce comportement peut, par exemple, consister dans le fait d'administrer un très mauvais caractère sur une longue période. Mais vous savez, ça revenait à relativiser déjà, ou à montrer la complexité justement de cette notion de faute. D'où le débat. Alors on a eu ensuite un tas d'arrêts qui essayaient d'analyser de plus près ces notions de faute et d'innocence, jusqu'à leur donner un sens tout à fait sophistiqué finalement. Alors c'est ça qui a un petit peu miné, n'est-ce pas, le système traditionnel de réflexion. Et pour les pensions, il y aurait tant de choses à dire, mais ce qui a relativisé, naturellement, il faut bien le dire, c'est le fait, une enquête a été faite, par exemple, dans le canton de Vaud, il y a parmi les premières études cantonales, pour montrer comment ces pensions étaient payées, de toute façon. Et là, on a vu des proportions formidables de pensions pas payées du tout, ou pas complètement, ou pas à temps, ce qui, naturellement, a aussi poussé peut-être des avocats dans leur conversation avec... assez jeune et de dire n'insistez pas trop sur la pension, vous aurez toute espèce d'ennui compte tenu du comportement de votre mari, vous devrez à chaque échéance entreprendre des démarches, vous feriez mieux de laisser tomber. Les avocats, je crois, ont une influence énorme sur l'évolution des pratiques du divorce, une influence énorme. Encore un exemple. On voit au recueil officiel l'exemple de ce Zurichois qui a essayé d'obtenir le divorce et qui se l'est vu refuser à raison de sa faute prépondérante. Sa femme n'était pas d'accord. C'est, à mon avis, l'exemple maximum. Cet homme, en 25 ans, est allé trois fois jusqu'au tribunal fédéral. C'est Zurichgericht de Zurich, Obergericht de Zurich, tribunal fédéral, deuxième coup. Et chaque fois, le divorce lui a été refusé. Étant entendu, naturellement, cet homme vivait avec une autre dame et en avait des enfants depuis pas mal de temps. Alors, en face d'histoires pareilles, Jacotet faisait allusion aussi au coût, finalement, de telles entreprises procédurales. On comprend qu'une autre génération d'avocats ait dit mais madame, vous n'allez pas vous rendre malade pendant les 15 prochaines années. Si navrant que ce soit, il faut tirer un trait, essayer d'organiser le mieux possible l'avenir, mais lutter pendant des années, justement, dans le dessein, avant tout de faire adresser des griefs à votre conjoint, ça n'a au fond pas un sens énorme. Mais tout ça s'inscrit dans une évolution qui a un tas de facettes, c'est tout un puzzle, et puis si on nous demande d'enlever une pièce parmi les 2000, évidemment cette pièce toute seule peut paraître assez curieuse, difficile à comprendre, parce que partie d'une évolution très vaste.
Il y aurait donc, selon vous, madame, un tiers des femmes divorcées qui renoncent donc à recevoir une pension.
Deux tiers
qui renoncent.
Oui, bon,
vous
savez, on ne connaît pas surtout les montants des pensions payées. Et je ne sais pas si dans cette statistique est inclus le montant symbolique comme en général pour sauver les droits dans l'AVS et ce genre de choses. Mais il n'y a pas plus d'un tiers. Mais bien sûr, vous avez tout ce qui est jeune couple sans enfants. Vous avez tout de même des personnes, les enfants ne sont plus, etc.
Mais à ce moment-là, elles renoncent aussi à leurs droits, à la part de la LPP, de leur époux, plus tard.
Oui, mais attention, la LPP est obligatoire que depuis 1984. dans les cas de revenus relativement bas, ça n'a joué aucun rôle. Dans des grandes entreprises comme Nestlé ou l'État, oui, bien sûr, c'est clair. Bon, si elle divorce jeune, ça va, mais si elle divorce, ils ont 45 ans, elle ne peut quasiment plus rattraper le retard, même avec des salaires très élevés. Ils sont rares.
Bon, je voulais simplement dire une chose, tout ce que vous avez dit, c'est très intéressant. Mais moi, je parle en tant que mari, et j'ai entendu que c'est principalement la femme qui est plus avantagée. Or, moi, je sens une profonde injustice quant à moi, car je vis depuis une année et demie qu'à quasiment au minimum vital, grâce aux pensions, puis disons une situation particulière. J'avais investi une certaine somme dans mon entreprise, enfin dans l'entreprise où je travaillais, qui était en fait l'économie du couple, si vous voulez. Donc il y a trois acquis, je dois la moitié quoi, là-dessus. Ça, je suis entièrement d'accord, il n'y a pas de problème. Seulement, il se trouve que cette entreprise où j'avais investi pour assurer mon emploi, dans le fond, elle est en chute libre. Donc, on me réclame la moitié de cette somme. Donc, je pourrais éventuellement, légalement, je pourrais la réclamer à mon employeur. J'ai un délai de 6 semaines ou 7 semaines, mais si je fais ça, je perds mon emploi. Donc, je me trouve dans la situation où j'ai 50 000 francs qui sont investis dans une entreprise, mais seulement, j'ai aucune liquidité, j'ai rien du tout. Et avec les pensions que je dois payer, et puis les impôts et tout, je ne peux vraiment plus rien payer. J'ai fait des comptes. Depuis le départ, donc, où je suis parti, de ce que j'avais gagné, tout ce que j'ai payé. Il me reste environ 900 francs par mois pour m'habiller, pour manger, et pour éventuellement me remeubler, parce que, bon, j'ai rien, et pour payer mon avocat, parce que là aussi, ça manque. Franchement, je vois pas, quoi. Je comprends pas la décision des juges de faire des mesures provisionnelles ou comme ça, sur quoi ils se basent. Parce que, bon, je pense que c'est normal. Je verse 2500 francs à mon épouse, elle en garde 1800, ça lui fait 4300 balles. Elle a 1000 francs de loyer, bon, plus tous les autres trucs, comme ça qu'elle vit mieux. Vachement mieux que moi, alors.
Il n'est pas question ici de refaire un jugement et de tel ou tel juge avait tort ou raison.
J'ai entendu justement.
Vous estimez avoir été jugé trop sévèrement. Il y a des possibilités d'appel. Je pense que vous les avez exercées ou vous les exercerez. Et puis si d'autres juges à trois en appel estiment que le premier avait quand même raison, c'est peut-être qu'il l'avait quand même finalement. Enfin, on ne peut pas rejuger votre cas. Il arrive assez fréquemment que le fait de partager en deux un revenu qui faisait bien vivre une famille donne des situations difficiles, donne deux familles qui vivent mal en fait. Ça, c'est possible.
Oui, non, mais moi, je pense que c'est plutôt d'un côté où on vit un peu mieux, puis de l'autre côté où on vit un peu moins bien. Bon, je reconnais que c'est moi qui suis parti, c'est moi qui ai eu tort.
J'ai de la peine à croire que vous puissiez avoir une décision qui vous laisse 900 francs, alors que les 4000 et quelques sur le revenu global du couple seraient à votre femme avec un enfant. Vous devez gommer dans ce qui vous reste, je ne sais pas, le loyer, d'autres sommes, vraisemblablement.
Non, 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 non.